L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est minuit 30, ce 20 mai 1981 à Palavas-les-Flots en France. Les routes sont calmes, les températures sont douces en cette nuit printanière. Quatre jeunes venus de Montpellier pour la soirée s'apprêtent à rentrer chez eux. Et ce mercredi-là, aucun d'entre eux ne s'attend à prendre en autostop la Dame Blanche. Et d'ailleurs, qui est-elle? Et d'où vient-elle? Et pourquoi cette dame mystérieuse arpente-t-elle les routes en pleine nuit? 20 mai 1981, minuit 30, c'est leur âge dans l'histoire. Deux jeunes hommes et deux jeunes filles grimpent dans la Renault 5, direction Montpellier, à 13 km de là. À peine ont-ils parcouru un kilomètre ou deux qu'ils aperçoivent sur le bord de la route une forme blanche qui se dessine petit à petit. Elle prend l'apparence d'une silhouette humaine et, un peu plus loin sur le chemin, se trouve un pont nommé le Pont Vert, connu des habitants du coin parce que son virage est extrêmement dangereux. Avant d'y arriver, ils ralentissent, s'arrêtent à la hauteur de cette mystérieuse silhouette. C'est une autostoppeuse qui doit avoir la cinquantaine. L'un des garçons qui est assis à l'avant lui demande « Madame, est-ce qu'on peut vous aider ?» Elle lui répond d'une voix froide « Pouvez-vous me déposer à Montpellier ?» L'une des deux filles, assise sur la banquette arrière, dit alors « Ah ben c'est justement notre route !» Elle ouvre la portière, sort de la voiture et laisse entrer la dame qui s'installe à la place du milieu. Il fait nuit noire à Palavas-les-Flots et personne n'est sur la route. Cette dame a eu de la chance de croiser quelqu'un. Dans la voiture, l'ambiance est étrange. Personne n'est très bavard et la passagère serre les poings et a du mal à se détendre. À la hauteur du fameux pont, elle va enfin laisser entendre sa voix à nouveau. « Attention, ce virage est dangereux !» Sa voix est encore plus froide. Elle est agacée et répète inlassablement « Attention à ce virage, il est dangereux !»« Attention à ce virage, il est dangereux !» Chaque fois plus agitée. Elle ne lâche pas le virage du regard. Sa mâchoire se serre. Elle se dandine. Et là, plus personne. Les deux filles hurlent de terreur. La dame, vêtue de blanc, a disparu. Le conducteur regarde dans le rétroviseur, mais il ne la voit plus. Il n'en croit pas ses yeux, donc il se retourne, mais elle n'est plus là. Il arrête net la voiture, puis redémarre à en faire grincer les pneus sur le bitume. Arrivé à Montpellier, quelques minutes plus tard, les quatre jeunes se précipitent au poste de police et racontent leur mésaventure. Ils ont pris en stop la Dame Blanche. Les quatre jeunes, âgés de 17 à 25 ans, sont interrogés par la police la nuit même et séparément le lendemain. Le commissaire chargé de l'affaire témoigne et dit qu'ils étaient tous les quatre effrayés. Chaque audition donne la même version et les policiers ne révèlent aucune incohérence. Les journalistes non plus. L'effet troublant que racontent ces jeunes adultes terrifie les touches. Et ils n'ont pas l'air de mentir. Le phénomène a vite fait le tour du village, du département de l'Hérault, puis de la France tout entière. Aujourd'hui, on compte des centaines de rumeurs qui racontent l'histoire d'une mystérieuse dame à la robe blanche flottante qui sillonne les chemins les plus dangereux au milieu des nuits les plus sombres. Mais que ce soit en France, en Écosse ou encore en Amérique, la Dame Blanche est au cœur de bien des légendes, parfois angoissantes et parfois maternantes. Et elle ne se rencontre pas toujours le long d'une route. La Dame Blanche apparaît aux humains avec des intentions tantôt bénéfiques et protectrices, tantôt maléfiques et parfois cruelles. On dit d'elle que, vêtue de blanc, elle prend les traits de la Vierge Marie. On la trouve aussi dans les châteaux de France ou encore en Belgique. Comment l'histoire de la Dame Blanche a-t-elle évolué au fil des siècles? Quelles sont les légendes qui entourent cette femme? D'où viennent-elles pour qu'elle se retrouve dans le village de Palavas-les-Flots? La légende de la Dame Blanche connaît de nombreuses variantes. En Europe et en Amérique du Nord, les mythes locaux la voient une fois fée, une fois sorcière et annonciatrice de mort, ou même l'avant d'hier de nuit. Il se pourrait que vous la rencontriez au bord d'un lac ou dans un château. Les fées que l'on considère comme des dames blanches s'apparentent à la reine Guenièvre dans la légende arthurienne. On y retrouve aussi la dame du lac et la fée Mélusine. Il s'agit ici d'un folklore ancien qui associe ces fées à des êtres moitié déesses et moitié sorcières qui ont des intentions plutôt bienveillantes. Guenièvre, Gwen Wifar en gallois, signifie « blanc fantôme ». Elle est l'épouse du roi Arthur et est dotée d'une beauté et d'une éloquence sans pareil. Elle détient un prestige qui fait chavirer les cœurs de beaucoup d'hommes à la cour. Elle est convoitée entre autres par Lancelot du Lac, qui deviendra son amant fidèle et dévoué. Elle a en sa possession le pouvoir de diriger le pays de l'ogre et par sa puissance, elle devient une maîtresse tyrannique très exigeante. Guenièvre domine Lancelot qui mène ses missions au nom de la reine seulement. Elle prend cette posture de Graal ou de fée blanche par son teint pâle et sa chevelure dorée qui apparaît aux proximités de lieux aquatiques. Cette fée personnifiée est la frontière entre l'humain et le divin. Elle jette son dévolu sur un homme en lui promettant l'amour éternel. Elle est l'un des objets de la quête chevaleresque. On peut associer cette légende à celle de la fée Mélusine, qui erre dans les landes et les forêts. Elle fait elle aussi partie de la légende d'Arthur et serait pour certains à l'origine de la légende de la Dame Blanche. Nous sommes dans le Poitou. Raymond de Lusignan tue son oncle, le comte Aymar de Poitiers, en heurtant un féroce sanglier. De peur de se faire tuer pour cet abominable accident, il s'enfonce dans les bois où il rencontre trois dames autour de la fontaine de soif. Mélusine en fait partie. Elle lui offre son aide pour le faire innocenter et en échange, il doit l'épouser. La seule condition est qu'il doit promettre de ne pas la voir les samedis. Raymond est effrayé par ce qui vient de se passer et accepte l'offre de Mélusine. Seulement, son frère le persuade que quelque chose cloche et, sûr que sa nouvelle épouse entretient une liaison avec un amant le samedi, il se rend furieux dans les quartiers de la fée pour la surprendre. Il s'approche doucement de la fenêtre de la salle de bain où Mélusine y fait sa toilette. Ce qu'il voit dans l'eau va le surprendre. Mélusine a l'apparence humaine, mais ses jambes... Ses jambes qui trempent dans l'eau chaude de son bain ressemblent à une queue de serpent. Pour éviter qu'elle ne soit au courant, qu'il n'a pas respecté sa promesse de ne pas la regarder un samedi, Raymond de Lusignan va garder le secret. Mais les choses dégénèrent rapidement. Le fils de Raymond est accusé d'avoir détruit l'abbaye de Maillezais et d'avoir tué accidentellement son frère. Ni une ni deux, Raymond jette la faute sur Mélusine et l'accuse d'être derrière cet événement sordide. Il hurle. Très fausse serpente ! À qui veut bien l'entendre ? Et Mélusine, en détresse, choisit de se défenestrer en poussant un cri strident qui va résonner dans la vallée autour du château. Après sa mort, Mélusine revient de temps en temps arpenter les couloirs de la demeure et veiller sur ses enfants pendant la nuit. Plusieurs personnes, dont les Lusignans, disent apercevoir cette dame blanche, qui va d'ailleurs un soir annoncer la mort de Raymond. Cette légende traversera la France et même la Belgique, où dans de nombreux châteaux, Mélusine erre toujours. Elle viendrait lorsque quelque chose de terrible s'apprêterait à se produire. Au sommet d'une des tours du château de Lusignan, on la voit entourée d'une clarté blanche et on l'entend pousser des cris glaçants qui présagent un décès tragique dans les trois jours qui suivent. Elle prendra alors le nom d'Annonciatrice de la mort. Avant que l'on dise que ces fées ont un pouvoir protecteur et prennent soin de la faune et de la flore au fin fond des bois, elles n'avaient pas toujours cette réputation positive. Ces messagères annonciatrices d'une mort imminente feront beaucoup parler d'elles. La Dame Blanche se contente d'apparaître au sein des familles bourgeoises et aristocratiques quand une mort se présage. C'est le cas pour l'empereur Charles Quint à la veille de sa mort en 1558. Aujourd'hui encore, on raconte qu'il faut prendre garde si l'on voit apparaître une mystérieuse dame blanche, car son apparition n'est jamais de bon augure. Après les fées et les annonciatrices de mort, les dames blanches s'apparentent aussi à la légende des lavandières de la nuit. Ces histoires font partie du folklore breton, le plus intrigant et le plus fascinant. Mais qui sont ces lavandières que les voyageurs craignent tant? On dit de ces femmes qu'elles payent pour avoir péché durant leur vie. Elles ont, sans le vouloir, ou parce qu'elles étaient trop ingres, détérioré le linge de personnes pauvres. Au bord d'un lac ou d'une rivière, elles se mettaient à frotter les vêtements avec des pierres pour économiser leur savon. Pour les punir de leurs péchés, elles sont obligées, après leur mort, de travailler aux heures impaires de la nuit et hantent les rivières et les lavoirs. George Sand dira d'ailleurs qu'il n'est point de mare ou de fontaine qui ne soit hantée, soit par les lavandières, soit par d'autres esprits plus ou moins fâcheux. La rencontre avec la lavandière a souvent lieu le soleil couché. La nuit est sombre. La brume donne cette impression humide et froide. On se fait surprendre au retour du travail, les soirs d'automne aux alentours de la Toussaint. Quand on la croise, inutile de l'insulter, au risque de témoigner d'une férocité extrême. Elle accoste le voyageur et le contraint à tordre son linge jusqu'à ce qu'il s'épuise. Alors contente de tordre l'habit dans un sens, elle trouve un malin plaisir à le détordre. Le malheureux qui aura croisé son chemin est pris dans une ronde infernale jusqu'à ce que ses bras n'en puissent plus. Elles errent comme des âmes en peine et hantent les lieux aux allures marécageuses, en attendant l'arrivée d'un bon samaritain, en fredonnant. Jusqu'à ce qu'il vienne un chrétien sauveur, il nous faut blanchir notre linceul sous la neige et le vent. Pour se protéger de ces lavandières, il n'existe qu'un seul moyen. Il s'agit de tordre le linge dans le même sens qu'elles auront choisi jusqu'à ce qu'elles se lassent et laissent aller leur victime. Mais le plus simple encore ne serait-ce pas de courir le plus vite possible afin d'éviter qu'elle nous rattrape. Parfois, on les associe aussi aux mauvais présages et aux annonciatrices de mort. Elles sont, elles, comparées à l'image de la Banshee irlandaise. Ces Banshees sont ces fameuses sorcières que l'on retrouve en Irlande, dans la mythologie celtique. Chaque famille irlandaise possédait une banshee qui portait des habits de deuil quand elle venait annoncer une mort prochaine. Elles auraient le teint pâle, les cheveux extrêmement longs et seraient vêtues de longues robes. Au final, elles ressemblent étrangement à la Dame Blanche, telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'elle a été aperçue à Palavas-les-Flots. Bref, toutes ces légendes, celles d'Arthur, des annonciatrices de mort, des lavandières ou des sorcières irlandaises ont connu une évolution pour arriver à notre autostoppeuse fantôme, celle que nos quatre jeunes venus de Montpellier ont fait monter dans leur voiture. Si l'on prend en stop cette femme vêtue de blanc de la tête aux pieds aux abords d'une route dangereuse, il se pourrait qu'elle nous sauve la vie. On dit qu'elle erre à l'endroit où elle serait morte. En montant dans la voiture, elle prévient du danger et disparaît ensuite, mystérieusement. Que l'on y croit ou non, les récits mettant en scène l'apparition de cette mystérieuse dame blanche sont nombreux.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte leur âge de la Dame Blanche, cette mystérieuse femme vêtue de blanc que certains ont eu la chance, ou la malchance, de croiser sur le bord de la route. Comme ça a été le cas pour quatre jeunes de Montpellier. Tantôt personnage de légende féerique, tantôt sorcière, la Dame Blanche a fait frissonner bien des villages. Avec le temps, ces histoires se sont transformées pour s'adapter à notre époque. D'abord bien présente dans l'inconscient collectif au Moyen-Âge, quand elle hantait les châteaux, on la connaît aujourd'hui comme une autostoppeuse de la nuit. Retournons au Moyen-Âge, rencontrer celles qui ont, elles aussi, inspiré notre autostoppeuse française. Nous sommes à Tonneville, en Normandie, au XIIIe siècle. Cette ancienne commune française, située dans le département de la Manche, va connaître une rumeur bien étrange. Tonneville entoure l'étang de Percy, au milieu des Landes normandes. À la tombée de la nuit, un léger brouillard vient se poser sur l'eau du lac qui deviendra bientôt le cimetière de voyageurs perdus. Ils auraient été les victimes des maléfices d'une dame blanche aux intentions plutôt noires. Blanche de Percy est une jeune femme issue de la grande famille des Percy en France. Elle habite un manoir situé en bordure de la route de Cherbourg de Beaumont. Blanche est très belle, très intelligente. Elle a déjà tout pour elle, mais elle en veut plus. Elle veut être la meilleure en toutes choses. Et pour y arriver, dès son plus jeune âge, elle se plaît à utiliser de sombres stratagèmes qui lui vaudront cette réputation de jeune fille à l'âme obscure. Elle devient vite la source de tous les malheurs à Tonneville. Une rumeur que l'on colporte raconte que dans un accès de colère, elle aurait poussé une vieille dame dans l'étang et attendu qu'elle se noie. Elle a son caractère indépendant. À la mort de ses parents, elle devient la seule héritière du domaine. Elle refuse de donner sa main à tous ses prétendants. Elle se focalise alors sur la magie noire et sur l'astrologie. Des pratiques qui ne sont absolument pas en adéquation avec les mœurs de l'époque. Alors qu'on attend d'elle qu'elle devienne une épouse modèle, elle se lance dans une conquête démoniaque pour acquérir toujours plus de terres et asseoir sa puissance. Un soir, alors qu'elle pratique un rituel de magie noire, elle entre en contact avec un membre de sa famille. Elle va signer de son sang avec lui un pacte diabolique. Elle se sent tout de suite très heureuse et est envahie d'une force surhumaine. Peut-être s'agissait-il d'un démon. Elle a ce soir-là pactisé avec une entité démoniaque qui va faire d'elle une damnée après sa mort. Ce pacte va la rendre richissime pendant plusieurs années. La demoiselle de Percy s'en prend à de malheureux fermiers qui tentent de survivre. Elle prend un malin plaisir à les faire souffrir et à les dépouiller de tous leurs biens. Cette haine qu'elle éprouve l'exalte et lui donne envie de la ressentir davantage. Seulement un jour, la chance va tourner. Blanche est en plein procès avec ses voisins pour tenter de mettre la main sur leur terre, mais elle va perdre. Elle entre alors dans une telle furie qu'elle va promettre de revenir hanter les lieux une fois morte. La lande manque à son palmarès et elle entame un nouveau rituel de magie noire pour pouvoir, cette fois, pactiser avec le diable en personne. Elle lui demande de pouvoir venir hanter les lieux qu'elle n'a pas réussi à s'approprier. À sa mort, le cercueil est si lourd que le prêtre qui officie la cérémonie décide de faire une sépulture au sein même de la propriété des Percy. Il pense ainsi que la demoiselle pourra reposer en paix. La nuit tombe sur le domaine et un fermier du manoir voit apparaître une jeune fille vêtue d'une robe un peu floue. Il entend alors « Je voulais que tu saches que la lande m'appartient. » Et il la voit partir au loin, en ricanant. Depuis cette nuit-là, au bord de l'étang de Tonneville, on voit apparaître ce que les habitants appellent une dame blanche. Elle fait apparition pendant la nuit, alors que la froidure commence à s'installer. Elle fait tourner en bourrique les voyageurs qui ont le malheur de se perdre dans la lande. Apeurés et démunis de leur sens de l'orientation, ils se retrouvent au milieu de l'étang alors qu'elle rit aux éclats. Ils se noient. Et elle les regarde sans scrupule, aucun. Dans la légende, elle prend parfois l'allure d'un cheval blanc qui se met au pas, aux côtés des piétons, les incitant à grimper sur son dos. Mais gare à celui qui osera monter ce cheval venu de l'autre monde. Il disparaîtra au milieu de l'étang, laissant se noyer les passagers trop crédules. Des siècles se sont écoulés et les rumeurs sur Blanche de Percy, la dame blanche démoniaque, se multiplient. En 1949, des travaux commencent dans le manoir et ses ossements sont découverts à l'endroit précis où l'on dit qu'elle a été enterrée. Aujourd'hui, l'étang de Percy ne connaît plus de malheur car plus personne ne peut s'y noyer. Maintenant asséché, le terrain laisse tout de même apparaître des indices qui révèlent qu'il y avait bel et bien de l'eau à cet endroit. La demoiselle de Percy fait toujours partie intégrante du folklore normand. C'est toujours avec une certaine appréhension que les habitants de la Manche ose s'aventurer dans l'ancien marais en pleine nuit. La légende raconte que si vous êtes assez téméraire pour vous aventurer dans les bois de Tonneville et que vous rencontriez Blanche, il faudra fermer les yeux. Croiser son regard pourrait vous faire perdre le sens de l'orientation et vous être fatal. La demoiselle de Percy est loin d'être la seule dame blanche que la France ait connue. À environ 2 heures de route de là, Alençon aussi a sa légende frissonnante. Au Moyen-Âge toujours, Marie Anson vit au château des Ducs, seule, pendant que son mari se bat à la guerre. La châtelaine met au monde son premier enfant et attend que son chevalier revienne. Seulement, elle va être victime d'un terrible piège. Alors qu'un galant tente d'obtenir ses faveurs, elle n'a Dieu que pour le nouveau-né. Agacé et blessé dans son estime, il va se venger. L'homme va persuader l'époux de Marie qu'elle l'a séduit. Son caractère de guerrier tyrannique va le pousser à commettre l'irréparable, fou de rage. Il va tuer de sang-froid sa femme et son enfant avant de se rendre compte qu'il a été manipulé et de se donner la mort. Depuis, on entendrait pleurer Marie dans les couloirs du château d'Alençon. Mais quelque chose cloche. L'histoire ne témoigne d'aucune Marie Anson. Le récit s'arrêterait donc à une légende urbaine, preuve que la Dame Blanche reste l'un des personnages de fiction les plus emblématiques depuis des siècles. Les légendes de la Dame Blanche appartiennent au monde entier. Elles restent, peu importe l'histoire, cette figure féminine fantomatique qui appartient au folklore. On dit qu'elle a connu une mort tragique et qu'elle vient faire surface pour annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle. Elle revient cycliquement ou à des moments bien précis sur les lieux où elle a perdu la vie. Aujourd'hui, le personnage de la Dame Blanche a évolué, mais ne cesse de faire tourner la tête des visiteurs de châteaux qui y croient dur comme fer. Plus tard, au XVe siècle, c'est le château du Puy-Martin qui va accueillir l'une des histoires les plus connues de cette femme perdue dans les limbes. Le château a en pleine journée une allure plutôt rassurante. Il est constitué de tours rondes et d'un donjon qui domine le domaine de manière majestueuse. La pierre est claire et la végétation verdoyante apporte douceur et sérénité. Mais une fois la nuit tombée, on dit que le château laisse parler le fantôme de Thérèse, épouse de Jean de Saint-Clar. Alors qu'il revient du combat, Jean de Saint-Clar va surprendre sa femme dans les bras d'un jeune seigneur. Épris d'une jalousie folle, il va enfermer Thérèse dans une des tours du château pendant 15 ans pour l'y laisser mourir. Et une fois la nuit tombée, son fantôme entrait les couloirs du château du Puy-Martin. Xavier de Montbron connaît le château comme sa poche. Il connaît chaque porte dérobée et rapporte qu'il n'a jamais croisé Thérèse, mais son père, lui, l'a vu à plusieurs reprises. Quand il en parle, il dit « Au cours de toutes ces années, je ne l'ai jamais croisé, mais mon père, Henri, décédé en 2002, si, et à plusieurs reprises. Je dois avouer que ces rencontres avec la Dame Blanche l'ont bien chamboulé. » Aujourd'hui, le château accueille les visiteurs qui ont envie de frissonner le temps d'une nuit. Ils peuvent venir découvrir le secret bien gardé par les propriétaires de ce qu'il se passa à Puy-Martin une fois le soleil couché. Mais comme je vous l'ai dit, la légende d'une dame tourmentée qui hante les tours des châteaux n'est plus tout à fait d'actualité. Quand on vous parle de Dame Blanche, vous pensez sans doute instantanément à cette autostoppeuse qui monte dans les voitures de ceux qui se sont arrêtés pour lui offrir de l'aide. Même s'il existe quelques autostoppeurs, il s'agit bien souvent d'une dame qui risque de vous surprendre sur le bord d'une route. Elle est habillée en blanc et disparaît à l'approche d'un passage dangereux, après avoir poussé un cri d'alerte. Il ne s'agit pas ici, comme pour les fées ou les annonciatrices, d'entités historiques qui appartiennent à une légende. Bien souvent, les autostoppeuses fantômes sont des dames décédées accidentellement à l'endroit où on peut les croiser. Il est vrai que la Dame Blanche de Palavas-les-Flots reste l'un des récits les plus marquants. L'histoire de ces 4 jeunes qui vont échapper à un accident au détour d'un virage mortel et qui se rendront compte que leur mystérieuse passagère a tout bonnement disparu après les avoir mis en garde. C'est aussi la première fois que la police devra constater un événement surnaturel mettant en scène une dame blanche. Mais depuis, bon nombre de faits ont été rapportés. Est-ce que Palavas-les-Flots sert de tremplin qui a activé l'imagination de conducteurs ou est-ce que cette histoire a permis de délier les langues qui témoignent de faits invraisemblables et glaçants sur le bord des routes ? On recense en France métropolitaine pas moins de 297 phénomènes de ce type. Dans tous les récits, la typologie du témoignage de rencontre avec la Dame Blanche reste la même. Il s'agit d'une route peu fréquentée, où les apparitions, puis les disparitions se produisent au même endroit. Le conducteur est bien souvent un homme d'âge mûr et seul. Il n'est pas forcément pressé. La jeune femme qui attend sur le bord de la route est, elle, vêtue de blanc. Pour les conducteurs, cette dame est physiquement bien réelle. Alors vous vous demandez sans doute si en fait il s'agit d'une légende urbaine ou de la réalité. Bien sûr, pour la plupart des témoignages, la police a vite pu déceler un canular. Mais dans certains cas, l'histoire n'est pas totalement abracadabrante. Comme le commissariat de Montpellier où se sont rendus les quatre jeunes pour rapporter ce qu'ils avaient vécu à Palavas-les-Flots. D'autres policiers ont dû accueillir des automobilistes en détresse. Il existe d'ailleurs un protocole psychologique afin de ne pas brusquer les victimes de telles errances nocturnes. En France, ces témoignages d'apparition sont encore plus fréquents que ceux des ovnis. Les endroits où ont été aperçues ces autostoppeuses prennent même le nom d'autoroute ou de route hantée.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de la Dame Blanche. Les légendes sont le reflet de notre monde. Elles sont inspirées d'une histoire vraie, se transmettent et se transforment au fil des siècles. Ces histoires fascinent et parmi elles, celle de la Dame Blanche. L'un des personnages les plus marquants de notre époque qui hante les endroits au passé sinistre. On la rencontre en France, mais aussi chez nous ou outre-Atlantique. Les témoins de ces apparitions croisent son chemin au détour d'une route dangereuse ou encore dans les couloirs de châteaux aux allures lugubres. On a dit que la Dame Blanche sur le continent européen connaissait de multiples facettes. Sur le continent américain, deux Dames Blanches sont particulièrement célèbres. Il existe la mariée sans tête américaine et la Llorona mexicaine. Certains endroits sont les théâtres de phénomènes mystérieux qui, à ce jour, ne connaissent aucune explication scientifique. C'est le cas à Yellowstone, en Amérique. Que feriez-vous si vous tombiez nez à nez avec une mariée sans tête ? Le parc de Yellowstone a une superficie de 9000 m² et est l'un des plus célèbres aux États-Unis. Les histoires sur le site circulent énormément car par sa grandeur, le territoire a connu de nombreux événements tragiques. Ça a été le cas pour deux jeunes mariés. Nous sommes au XXe siècle. Le jeune couple décide de passer sa lune de miel dans le parc le plus célèbre d'Amérique. Le mari est joueur, il aime le poker et mise toujours énormément d'argent. Plutôt chanceux habituellement, il décide de faire confiance au destin. Mais un soir, un peu trop gourmand, il va tout perdre. Toutes les économies du couple sont passées à la trappe. La jeune femme est en colère. Elle qui compte sur cet argent pour acheter une maison et fonder une famille. Son époux rentre à l'auberge et une violente dispute éclate. L'homme agité sort de la chambre en claquant la porte. Le personnel de l'hôtel est alerté par le boucan de cette violente altercation. Mais pendant deux jours, ils ne vont pas oser déranger la jeune femme. Inquiet tout de même du silence de cette dernière, une femme de chambre décide de s'aventurer. Elle frappe à la porte, mais personne ne l'invite à entrer. Avec un passe-partout, le personnel arrive à se faufiler à l'intérieur. La chambre est sans dessus-dessous. La valise est ouverte. Les vêtements tapissent le sol. Les draps sont chiffonnés. Mais la pièce est calme. Seule une odeur métallique flotte, rendant la femme de chambre un peu chancelante. L'odeur vient de la salle de bain. Elle prend donc son courage à deux mains et s'y aventure, sachant pertinemment que ce qu'elle va découvrir ne va sans doute pas lui plaire. Le corps de la mariée gît dans la baignoire, sans la tête. L'horreur. La scène est chaotique et la femme de chambre hurle de terreur. Mais l'auberge décide d'étouffer l'affaire pour éviter que ce drame ne nuise à leur réputation et à celle de la famille. Mais à Yellowstone, l'histoire ne s'arrête pas là. Tard dans la nuit, après l'enterrement de la jeune mariée, un membre du personnel veille. Il lit son livre tranquillement, assis sur une chaise au rez-de-chaussée. Les couloirs sont très calmes à cette heure de la nuit. Mais un bruit sourd l'interpelle. L'homme surpris lève la tête vers les escaliers qui donnent dans le hall et voit une jeune femme descendre lentement les marches. Elle porte une blouse blanche avec un reflet rougeâtre qui lui glace le sang. Son regard se pose sur ses pieds et remonte jusqu'à son visage, mais elle n'en a pas. La dame avance au ralenti, portant sous son bras sa tête et disparaît une fois passée devant la chambre où s'est produit le drame quelques jours auparavant. Des années plus tard, de nombreux visiteurs disent avoir aperçu cette même silhouette qui erre autour de l'auberge où elle aurait perdu la vie. Nous descendons le continent pour nous retrouver au Mexique cette fois-ci. Pour découvrir ce qui a inspiré le film « La malédiction de la Dame Blanche » sorti en 2019. Il met en scène la Llorona, cette dame blanche mexicaine dont la légende connaît des racines européennes et précolombiennes. Son histoire, tous les Mexicains et tous les Américains qui habitent les pays voisins la connaissent par cœur. En Californie, au Nouveau-Mexique ou encore au Texas, la Llorona traverse les frontières dans le continent. Llorona signifie pleureuse en espagnol. La nuit, quand le brouillard se lève, on la voit habillée en blanc marcher le long des cours d'eau. On l'entend pleurer et gémir de douleur alors qu'elle cherche ses enfants qu'elle a perdus. Quoi que vous fassiez, ne vous approchez pas, ou elle vous emportera. On se retrouve au temps des conquistadors. Maria vient d'une famille pauvre et est éperdument amoureuse d'un homme au passé sombre et au présent dépressif. Elle pense pouvoir le changer, le faire arrêter de boire. Elle réussit dans un premier temps, mais à l'arrivée de leur deuxième enfant, il retourne dans ses travers. Il recommence à boire et à la tromper pour combler le vide qu'elle avait réussi à lui faire oublier. Il l'abandonne à tout moment, pendant des semaines ou des mois, sans l'avertir, et un jour, il ne reviendra plus. Il part avec une femme qui est capable de s'assumer financièrement. Maria est furieuse et son mari ne prend même plus la peine de venir rendre visite à ses enfants. Lors d'une balade le long d'une rivière, elle aperçoit son ex-mari avec à son bras une jeune femme d'une beauté à couper le souffle. Il s'arrête et s'adresse à ses enfants en ignorant complètement Maria. Dans une rage incontrôlable, elle prend ses deux enfants et les jette dans la rivière en les regardant disparaître avec le courant. Le temps qu'elle reprenne ses esprits, il est trop tard. Elle commence à chercher ses enfants, longe le cours d'eau, mais ils ne sont nulle part. Elle gémit de désespoir dans les rues de sa ville en appelant ses enfants inlassablement. Dépourvue d'espoir, on va la retrouver morte, à l'endroit même où elle a jeté ses enfants. La légende raconte qu'en arrivant aux portes du paradis, l'entrée lui est refusée. Elle est condamnée à passer l'éternité entre le monde des morts et des vivants pour retrouver ses enfants perdus. On l'aperçoit sur les bords de la rivière Santa Fe, où elle attend que d'autres enfants se noient. Comme ça, d'autres pourront partager la peine qu'elle est condamnée à ressentir pour toujours. Cette Llorona est un mélange de la culture européenne et précolombienne. Le mélange de la Dame Blanche, comme elle existe chez nous, et de la divinité aztèque Tuacuatl, déesse de la maternité. Cette déesse a abandonné son fils à un carrefour et elle y revient pour pleurer la disparition de son enfant. Quand on la voit, elle prend l'apparence tantôt d'une jeune femme désespérée, tantôt d'une vieille dame aux mains de sorcières. Elle tue bien souvent les enfants en les noyant. Mais il arrive qu'elle se serve d'un couteau ou encore d'une hache. On plaide la folie d'une mère en détresse, la jalousie ou encore une malédiction parce que les familles sont trop pauvres pour subvenir aux besoins des enfants. L'histoire de la Llorona n'a pas de fin. Elle est coincée dans une tourmente et son fantôme revient encore et encore hanter les rivières. Son récit fait le tour des lycées et se raconte autour d'un feu. De l'autre côté de l'Atlantique, un doute subsiste toujours. La Llorona existerait vraiment. Ce n'est absolument pas un hasard que notre Dame Blanche, qui se poste au bord des routes, soit vêtue de blanc. Son histoire s'inspire aussi de la Llorona mexicaine. Aux États-Unis, les phénomènes prennent d'ailleurs une variante assez intéressante. Dans la région des Grands Lacs, l'autostoppeuse est souvent une Mexicaine qui aurait assassiné ses enfants. Mais pourquoi la légende de la Dame Blanche perdure-t-elle depuis si longtemps? Il est impossible de savoir pourquoi certaines histoires arrivent à s'intégrer dans le folklore éternel de partout dans le monde. Mais les témoignages de personnes qui prétendent l'avoir vue viennent alimenter la fascination qui entoure la dame qui erre aujourd'hui aux abords de chemins sinueux. Sa légende, qui semble intemporelle et universelle, reste gravée dans les mémoires parce qu'elle touche à ce qu'on connaît de plus effrayant. Pour la Llorona, elle a marqué les esprits, car pour l'être humain, l'infanticide fait partie des crimes les plus atroces. Son histoire intrigue, et le climat angoissant qu'elle évoque inspire les conteurs à la narrer et à la transformer. La Dame Blanche connaît donc aujourd'hui deux aspects, le bienveillant et le mal intentionné. Les Dames Blanches contemporaines, celles qu'on trouve le long des routes, relèvent du mythe et de la légende, mais elles font également l'objet de témoignages surprenants. Les plus anciens datent de 1930 à Chicago, aux États-Unis. Depuis cette date, jusqu'en 1980, des douzaines de rapports sur ces apparitions ont été écrits, selon le Chicago Tribune. Tous racontent la même histoire. Un soir, entre la salle de bal Willowbrook et le cimetière Resurrection, une jeune femme lève son pouce en espérant que s'arrête un automobiliste. Elle porte une robe blanche, a les yeux bleus et les cheveux blonds. Elle demande d'être déposée devant le cimetière et disparaît une fois arrivée. Cette jeune femme s'appelait Marie et aurait été percutée près de la salle de bal. Après l'histoire de Marie, les récits se sont multipliés. Ils mettent en scène aujourd'hui ces fameuses avertisseuses, comme à Palavas-les-Flots en France, qui servent à prévenir les dangers. Il y a eu Palavas, mais il y a aussi Chambéry. Sur le bord de la route, Maurice aperçoit une jeune fille. En blanc toujours, et avec les cheveux blonds, elle attend. Il s'arrête et l'emmène chez elle à Châteaubriant. À l'approche d'un virage, elle commence à s'inquiéter de plus en plus et dit à Maurice d'être prudent. Lui, par contre, connaît bien la route et ne semble pas avoir peur. Mais la jeune dame commence à hurler qu'une femme est morte à cet endroit et qu'il doit absolument faire attention. Il veut la rassurer, se retourne et se rend compte qu'elle a disparu. Elle n'est plus dans la voiture, ni autour dans les bois sombres qui bordent la route. Maurice n'est pas le seul à avoir vécu une telle histoire. 7 ans auparavant, un médecin s'arrête pour laisser lui aussi monter cette jeune fille. Cette fois-là, elle ne va pas disparaître. Il la ramène jusque chez elle. Mais il pleut et le conducteur va lui prêter son parapluie et attend patiemment qu'elle se couvre à l'intérieur et revienne lui rendre. Seulement, il commence à s'impatienter parce qu'il ne voit personne arriver. Il décide de sortir et de sonner chez elle. Une vieille dame lui ouvre. Elle a l'air étonnée de le trouver là. Il lui demande « Serait-il possible de récupérer mon parapluie parce que je viens de déposer votre fille ?» Alors, la vieille dame le regarde d'un visage soudainement pâle et lui dit « Monsieur, ma fille est décédée il y a plusieurs années. » Elle lui montre une photo. C'est au tour de ce médecin d'avoir subitement le teint livide. La jeune fille qu'il vient de prendre en stop, c'est elle. Comme à Palavas-les-Flots, il y a bien une dame blanche à Chambéry. Cette dame blanche de Palavas-les-Flots est donc inspirée de bien des histoires et de bien des légendes qui viennent de partout dans le monde. Mais ce soir-là, en 1981, les 4 jeunes sont certains de ne pas avoir été témoins d'une légende urbaine, mais bien de faits réels, même s'ils semblent Invraisemblable, on est d'accord. Dans les années 1980, la presse a les yeux rivés sur l'affaire des plus intrigantes. Ces histoires, on peut y croire, ou non. Selon des spécialistes, des événements paranormaux, la Dame Blanche s'arrête à une légende urbaine. Et il est difficile, sans preuve, d'attester de tout ce qui a pu être rapporté par les témoins qui l'auraient croisé. D'ailleurs, plusieurs personnes ont joué de ces phénomènes qui viennent faire frissonner les auditeurs de ces récits. En France, un homme va même arpenter les routes la nuit, vêtu d'une cape blanche pour tenter d'effrayer les automobilistes. Il disparaissait ensuite dans les bois. En fonction du pays, de la région ou encore de l'époque, la Dame Blanche change de nom, change d'endroit et a des objectifs différents. Son destin maudit continue à faire pâlir ceux qui veulent y croire. Alors que sa légende varie, elle continue, elle, à intriguer comme au premier jour, ou plutôt comme à la première nuit. Et vous, vous, si vous la croisiez, est-ce que vous oseriez vous arrêter ? Voilà pour ce récit pour le moins fantastique et troublant que j'ai le plaisir de vous partager grâce à la complicité de Emma Verset.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.